Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Rebonjour à toutes et tous, si vous nous rejoignez sur REC 103.7 et les chemins de traverse, en compagnie de notre invité du jour, Lucille Parnaudot. Lucille, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Francis, je vais très bien, et vous ?
Très bien, très bien. Pas trop difficile de venir sur Chauvigny hein, ce matin ?
Ah non, c'est toujours un plaisir, surtout le samedi.
Exactement, avec un joli marché en effet, et puis du brouillard, mais ça doit être la même chose sur Poitiers, non ?
Oh non, il fait toujours beau à Poitiers.
Toujours beau à Poitiers. Oh, si vous le dites, je ne peux pas vous contredire. Il y a pas de... Vous êtes originaire d'un endroit où il fait encore plus beau généralement, hein, c'est Toulouse.
Oui, exactement. J'ai grandi à Toulouse.
Exactement. Pourquoi êtes-vous venu à Poitiers, tiens ? Par amour peut-être ?
Pour le travail, par amour du travail.
C'est déjà pas mal, c'est déjà une belle chose.
Oui.
Vous êtes dans quel domaine à l'origine ?
J'ai toujours travaillé dans des métiers de la finance. J'avais commencé en audit comptable, où on vérifie les comptes des entreprises et on contrôle que les comptes soient bien tenus. Et je voulais retrouver du sens à mon travail et j'ai cherché un métier un peu similaire, mais avec un sens éthique. Et je suis tombée sur une annonce en 2014 de la ville de Poitiers, mutualisée avec Grand Poitiers, qui cherchait un contrôleur de gestion externe pour contrôler les comptes des associations.
D'accord.
Pour le compte des collectivités qui subventionnaient ou garantissaient des emprunts pour des structures de droit privé. Donc associations, sociétés, économie mixte, etc. Et donc je me suis dit, c'est parfait, c'est le poste... De mes rêves.
Tout à fait. Alors ça va être un peu compliqué, hein, suivre les associations comme ça. C'est vrai que le financement, c'est toujours un peu compliqué. C'est de l'argent public, il faut le surveiller.
Exactement. En fait, une association est une structure de droit privé autonome, théoriquement. Mais on sait tous que beaucoup d'associations dépendent des fonds publics et des subventions publiques. Donc naturellement, moi, mon rôle, c'était une analyse financière juridique du traitement comptable et juridique des subventions. Ensuite, je rédigeais des notes à destination des élus qui, eux, prenaient des décisions plus politiques. C'est normal. Je suis restée à ma place.
Exactement. Ce qui vous a amené petit à petit à entrer dans le grand bain, celui de la politique, avec une rencontre peut-être ?
En fait, évidemment, quand j'ai rédigé mes notes, j'ai de fait découvert le territoire de l'intérieur, quelque part, puisque j'ai pu avoir accès à des dossiers, évidemment, de difficulté. Hein, quand on est contrôleur de gestion, pour contrôler les comptes des associations, on passe du temps sur les sujets délicats, pas sur les associations qui vont bien.
Voilà. Oui.
D'ailleurs, je disais à l'époque, si je ne connais pas, c'est bon signe.
Non,
Mais bon, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. En fait, j'ai fait mon contrat de 3 ans là-bas. Et ensuite, j'ai vogué de mes propres ailes. Je suis passée par le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Puis je me suis lancée à mon compte en 2018 dans l'accompagnement financier des PME, petites et moyennes entreprises. Parce que ça faisait des années que je voulais être entrepreneur, donc j'ai osé le faire en 2018. Mais je pense que certains se souvenaient de moi dans la collectivité, et c'est pour cela qu'Alain Claës et son équipe, lorsqu'ils se sont constitués pour faire une liste d'ouverture à l'époque, en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils s'ouvraient vers des personnalités de la société civile, comme on dit, y compris aux sensibilités plus centre-droit comme moi. D'ailleurs, je me souviens, pour l'anecdote, avoir dit... Monsieur le maire, j'ai pas de carte. Moi, j'ai une carte à aucun parti et j'y tiens pas. Mais si j'en avais une, ce serait plutôt de l'autre côté, quoi. Qu'est-ce que ça pose problème ? Et il m'avait dit non. L'idée, c'est de se réunir autour de l'intérêt général et de l'amour de notre ville et du territoire. Et c'était le cas, évidemment. Je voulais travailler sur les sujets d'attractivité et pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la ville. Il y avait beaucoup à faire déjà en 2020. J'estime qu'il y a encore plus à faire aujourd'hui.
Vous faites aujourd'hui du conseil, donc on l'a dit, donc aux entreprises. Hein, la démarche est louable, sans souci. Vous vous lancez dans la politique, on l'a dit. Alors vous êtes nombreux, hein, vous lancez actuellement sur Grand Poitiers. J'allais dire une chose. Quand on regarde, on a l'impression qu'il y a pléthore. Par contre, vous avez un grand champ libre, on peut dire, puisque j'ai l'impression qu'à droite, on n'a pas grand monde, à part l'extrême droite, bien sûr, et celle de M. Ciotti. À partir du centre droit jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque le RPR, une partie en tout cas, vous avez un champ assez libre, assez important.
Oui, après, c'est vraiment une discussion de projet qu'on a eue avec des personnalités du centre, de la droite, mais pas seulement, hein, d'ailleurs. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a commencé des discussions... entre nous, après on ne connaît pas tout le monde, mais j'ai toujours beaucoup discuté, je suis une femme de dialogue, comme j'aime le dire, y compris dans mon propre groupe où effectivement sur le fond on ne s'entendait pas sur certains sujets, où je pourrais y revenir après,
oui, bien sûr,
je pense qu'on aura l'occasion.
Oui, oui.
Donc je me suis éloignée du groupe puisque sur le fond je ne me reconnaissais pas dans le projet qui se dessinait et j'avais... Voilà, autant en 2020, j'étais surtout sur les sujets d'attractivité économique et de propreté. Aujourd'hui, j'ai pris un recul et j'ai beaucoup échangé avec des habitants et des acteurs de notre vie locale. Et sur les sujets de la sécurité, de la liberté d'entreprendre, pour moi, c'est devenu central dans mon engagement. Mmh. Et quand j'en ai parlé autour de moi, effectivement, ce sont plutôt des personnes de sensibilité centriste, centre-droit et droite qui se sont reconnues dans ce projet. Donc on s'est entendu avec ces personnes, l'équipe se constitue, il est encore un tout petit peu tôt pour parler de certaines personnes, le comité de soutien se construit. Uh-huh. Et effectivement, je crois qu'on discute bien aujourd'hui avec ces sensibilités du centre jusqu'à la droite, mais parce que le projet pour Poitiers est conforme à leurs valeurs, en fait. Donc après, je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas dans des enjeux d'étiquette, je comprends que certains en aient besoin, mais ce qui m'anime, moi, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire de notre territoire ?
C'est ça, oui. Et la raison, puisque vous parliez justement de désaccords avec certaines personnes, je suppose que c'est avec l'équipe Claes à l'époque, qu'est-ce qui vous a amené justement à quitter cette équipe, à ne pas vouloir en tout cas y rester ?
En fait, je pensais, et comme je vous l'ai dit, je voulais travailler pour l'intérêt général. Donc travailler à l'époque, on avait parlé de délégation de services publics, par exemple, qui est un mode de délégation, de services qu'on va donner au public quand on est une collectivité et où on peut intégrer une gestion privée. Donc ce sont des modes hybrides de gestion, mi-public, mi-privé. C'est vraiment ma spécialité. J'aime beaucoup travailler sur ces sujets-là. Ça me passionne. Et je savais qu'en cas de victoire, on allait pouvoir travailler à développer ce type de questions, de dossiers. Bon, il se trouve qu'on s'est retrouvés dans l'opposition.
Vous attendiez pas ça, justement, à ce coup de bambou, on peut dire, au moins pour Alain Claes, parce que je pense que quelque part, c'est lui qui était visé par les électeurs. Vous attendiez à cette défaite ?
Il nous faudrait 2 heures pour analyser, je crois, la défaite de 2020. J'ai passé des mois à y penser, à y réfléchir. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment le Covid qui a fait qu'il y a eu une abstention d'un certain électorat, peut-être plus nuancé de mesures, donc qui a peut-être mis en évidence les forces d'une liste beaucoup plus à gauche, beaucoup plus militante, avec des idées beaucoup plus fortes. Mais à l'époque, j'ai quand même salué sur la méthode, je parle bien de la méthode, pas du fond, mais la méthode de Poitiers Collectif et leur manière de travailler. J'ai quand même trouvé qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont été beaucoup dénigrés, mmh. Comme je le suis aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, on la connaît pas, elle est jeune. Oui, bah très
exactement,
bien.
Enfin, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à vous inviter.
Exactement, et je vous remercie.
Quand on ne connaît pas, autant inviter les gens pour apprendre à les connaître.
Exactement, et je vous remercie. Et je pense que, en fait, les habitants qui votent, ils ne se soucient pas trop de savoir si on est connu, si on a une assise, un aura, tout ça, je pense que c'est dépassé. Les gens voient bien, en plus, avec l'actualité nationale, tout ce qu'on veut quand on est citoyen, c'est que nos poubelles soient ramassées, que la vie en société puisse se faire, qu'on puisse discuter avec nos élus, être regardé dans les yeux, être considéré et qu'on puisse parler des problèmes. Mmh. Et c'est pour ça que ces sujets d'étiquette, je comprends, c'est légitime qu'on en parle, mais j'essaie de pas trop y passer de temps. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment... par exemple, dans mon programme, il y a une des mesures phares qui va beaucoup occuper les commentateurs et nos discussions sur les marchés, c'est la gratuité des bus.
J'allais y venir aussi parce que c'est assez étonnant. Mais...
mais j'en suis fière parce que ça fait du bruit, ça fait parler et au moins ça concentre un débat sur quelque chose qui n'est pas un débat philosophique de la politique. C'est vraiment à Poitiers. Est-ce qu'un bus gratuit, ça va être mieux pour l'écologie, ça va être mieux pour le travail, ça va permettre aux gens de se déplacer et de faire des choses et de consommer et donc de faire rayonner notre territoire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc après, il y a des personnes de gauche qui s'y retrouvent, il y a des personnes de droite qui s'y retrouvent et inversement. Il y a des personnes de tous bords qui ne s'y retrouvent pas. Mais le sujet, il n'est pas politique, là. Il est concret et on est dans une... Ok, on est sur un territoire de 250 000 habitants environ sur Grand Poitiers. C'est une grande machine et il y a des enjeux politiques nationaux que je n'ignore pas. Mais parlons concret, en fait.
Offrir la gratuité donc, à l'ensemble des Poitevins, des habitants de Grand Poitiers, c'est un peu étonnant. Je veux dire, on parle aujourd'hui des impôts, notamment on voudrait imposer un peu, même à une petite somme, à tous nos concitoyens, de façon à les impliquer véritablement. Leur offrir un bus gratuit, c'est pas justement leur mettre une certaine inconscience.
Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est pas tout à fait nouveau. La gratuité des bus avait été notamment dans le programme de Jacqueline Dègre, lorsqu'elle s'était présentée aux élections municipale.
Il me semble que Niort avait fait la même chose, mais par contre, ils sont revenus.
Ah non, Niort l'a fait.
Niort fait toujours.
Ils l'ont fait en 2017. Ouais. Jérôme Baloge a été élu en 2014. Ils l'ont mis en place en 2017. Ils ont ajusté les fréquences, puisque, à juste titre, hein, certaines associations d'usagers et l'opposition, ainsi que la majorité, ont travaillé sur les enjeux de fréquentation, puisque de fait, ça a eu un succès fou. Mm-hmm. Comme disent beaucoup de Niortais, les bus étaient vides. Aujourd'hui, ils sont pleins. Voilà. Et un bus qui circule vide ou plein, ça pollue globalement de la même façon.
Oui, tout à fait. Oui.
Sauf que les personnes qui prennent le bus, alors les détracteurs vont dire oui, mais c'est des personnes qui auraient été à pied, maintenant elles prennent le bus. Mais soit, mais du coup, quand on prend le bus, au lieu d'être à pied, on fait plus de trajets, on va peut-être faire plus d'activités. On va être plus enclin à aller passer un entretien d'embauche qu'on n'aurait peut-être pas passé si on avait dû payer son ticket, etc. Mmh. Bon, c'est le premier aspect. Ce n'est pas si nouveau que ça. Il y a d'autres villes qui l'ont fait. Non, c'est un modèle qui se vérifie
qui
fonctionne d'un point de vue d'attractivité économique. Et en termes d'écologie, il faudrait le mesurer. On n'a pas encore la culture du bilan carbone, mais ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on voudrait mettre en place. Et l'autre aspect, c'est ce côté la gratuité. C'est philosophiquement, il faut payer parce qu'il faut être digne, etc. Alors, d'une part, il y a beaucoup de gratuité déjà à l'échelle de Grand Poitiers, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui bénéficient de la gratuité. Donc finalement, qui paye? Ce sont à 50%, voire à 100%, les entreprises et les travailleurs, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix que de prendre le bus, donc ils payent leur ticket. Eux, ils n'ont pas droit à la gratuité ou aux réductions significatives. L'employeur aide, mais c'est l'employeur qui paye la grande majorité de ce versement mobilité et qui paye nos bus aujourd'hui. Donc attention aussi quand on me dit rien n'est gratuit, etc. Mais c'est déjà le cas. C'est quand on paye 1,50€ le billet chez Vitalis, on ne paye que 10% de ce que représente la facture totale. Il y a plusieurs villes qui font ça, qui laissent la participation au billet, mais en fait, il n'est pas payant, ce n'est pas un paiement d'un billet, c'est une participation minimale, minime, de ce que ça coûte réellement. Donc c'est déjà aujourd'hui les entreprises qui, globalement, payent ce bus. Et j'irai un peu au-delà, c'est qu'en moyenne, sur les dernières années, Vitalis a dégagé un excédent. Donc c'est cet excédent de fonctionnement qui a été permis en grande partie par la billetterie, qui par ailleurs coûte de l'argent d'ailleurs, qui a permis de dégager des capacités d'investissement. Donc c'est très bien, ils en ont fait des pistes cyclables, c'était leur projet politique, mais moi je propose un choix différent. Je préfère favoriser la personne qui doit travailler, qui va prendre le bus et qui va le prendre gratuitement. Je préfère favoriser les familles qui veulent faire prendre le bus à leurs enfants, qui sont plusieurs, pour lesquels, 1,50€ par personne, et le fait de télécharger l'application ou faire la queue en boutique, c'est un frein. Qu'on le veuille ou non, c'est un frein logistique fort. Et j'aimerais libérer tout ça pour que les personnes puissent prendre le bus par défaut. Comme si c'était l'intérêt général, un intérêt public, comme jeter ses déchets. C'est gratuit, le ramassage en lui-même, il n'est pas payant à chaque fois. Prendre le bus, c'est pareil, il faudrait que ça devienne un réflexe. Comme marcher dans la rue, on ne paye pas un péage à chaque fois pour avoir le droit de marcher dans la rue. De la même façon, le bus à Poitiers, je voudrais que ce soit le mode de transport gratuit par défaut. Comme ça, de fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de pollution. Et je l'espère, je le redis, c'est quand même la priorité. Plus de mobilité, plus de flux pour les personnes qui travaillent et qui vont pouvoir aller travailler plus facilement.
Vous êtes intéressé par le patrimoine et la culture. Hein, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mmh. J'en parle parce qu'il y a quelques mois maintenant, je recevais ici Florence Jardin, donc qui est la présidente de Grand Poitiers. Je lui avais proposé des bus du patrimoine. Au moment des journées du patrimoine, notamment sur Grand Poitiers, de permettre aux gens de l'appui pour les extrémités et rouillés d'aller sur Poitiers, aux gens de Poitiers, de découvrir un peu ces lieux, ces endroits comme l'appui, donc avec son prieuré fonteuriste. Est-ce que c'est des choses que vous pourriez mettre en place si...
Oui, c'est une excellente idée, c'est
Merci.
Juste du patrimoine. J'en avais déjà un petit peu entendu parler, j'y suis tout à fait favorable. On l'étudie. Alors, évidemment, il faut étudier les coûts, les choses ne se font pas comme ça, mais il y a de nombreux partenaires sur le territoire, publics et privés, qui ont des idées similaires et qui rejoignent cette idée d'un bus du patrimoine à l'échelle du territoire. Ça, c'est vraiment... c'est le cœur de ce projet que je porte, c'est cette ouverture sur le reste du territoire. Poitiers, pour moi, c'est un membre de Grand Poitiers. Grand Poitiers est lui-même un organisme, alors avec toutes ces divergences à l'intérieur, c'est pareil, on pourra y revenir, mais qui pour moi, a une identité. et une fierté à défendre. Et son patrimoine historique en fait partie. Quand on parle de Chauvigny, Saint-Savin, Notre-Dame-la-Grande, cet art roman qui est connu dans le monde entier, c'est, ne se limite pas à Poitiers.
Exactement,
évidemment, donc typiquement, venir à Chauvigny, pour moi, c'est la même chose que de vivre à Poitiers. Quand on nous rend visite à Poitiers, on les emmène à Chauvigny, à Saint-Savin. Voilà, à Lusignan, il y a des choses à visiter à l'échelle du territoire. Donc typiquement, ce type de bus du patrimoine font partie, si vous voulez, des actions qu'on peut mettre en œuvre quand on défend cette
Exactement.
Vision du territoire.
Puis pour notre jeunesse, pour découvrir le patrimoine. Mm. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, il y a maintenant quelques années, je vous remercie. Quand j'étais enfant, j'habitais Saint-Cyprien, Poitiers, tout simplement. Et juste en face, du côté de Saint-Benoît, vous aviez des champs qui étaient libres. Moi, mes seules balades le week-end, c'était d'aller dans ces champs, en fait, dans ces chemins. Aujourd'hui, on a la possibilité de voyager, et tant mieux. Et c'est vrai que si on peut se permettre de faire découvrir la culture et puis le patrimoine à des jeunes, ça peut être intéressant, quoi. Ça peut éviter peut-être aussi que ces petits jeunes, comme on le faisait nous à l'époque, voilà, des petites bêtises enfants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que si on occupait ces jeunes autrement, ça permettrait peut-être justement de régler certains problèmes.
Oui, en fait, c'est cette ouverture à la culture. C'est Malraux qui défendait ce modèle et je m'inscris pleinement là-dedans. C'est-à-dire que la culture et la littérature, le patrimoine, l'apprentissage de l'histoire, toutes ces choses-là... Notre rôle, en tout cas, quand on veut être aux responsabilités et représenter la puissance publique, c'est de l'ouvrir au maximum de personnes. Donc, il y a des enjeux de rayonnement où il faut aller financer un événement élitiste ou financer des équipes qui vont faire rayonner le territoire, c'est vrai. Mais il y a aussi une part qui manque cruellement. Enfin, voilà, Poitiers, il faut le dire, il faut être plus ambitieux, je pense, en termes de culture traditionnelle. Voilà, il y a des choses à faire découvrir aux plus jeunes, surtout ceux qui en sont déconnectés.
Tout à fait.
Et il y a un vrai travail de médiation culturelle, hein, ça s'appelle comme ça, c'est devenu un métier d'ailleurs, médiateur culturel, et on en a sur le territoire comme ailleurs. Ce métier de la médiation culturelle, c'est d'aller mettre média, se mettre au milieu, donc faire le lien entre la personne qui n'est pas du tout acculturée et la culture. Et justement, ouais, l'écart du patrimoine dans des ambiances un peu festives, un peu sympathiques,
ça
se met en place. Et typiquement, des partenaires privés comme, par exemple, le Futuroscope sont experts en la matière.
Exactement.
Ils savent faire et ça, je sais qu'ils travaillent dessus et c'est très bien.
Vous parliez de personnes déconnectées tout à l'heure. On a le sentiment aujourd'hui, franchement, au niveau national et au niveau politique, que nos politiques sont de plus en plus déconnectées. Alors, on va se faire une petite pause musicale. On en reparlera juste après. C'est Alain Souchon avec ses fils, Pierre et Ours, qui chantaient il y a quelques temps encore une chanson qui s'appelle Le trottoir d'à côté. Voilà, en espérant que vos électeurs, en tout cas, n'allent pas un jour s'asseoir sur le trottoir d'à côté, puis qu'ils viennent bien au moment du vote sur votre bulletin. On se retrouve tout de suite après cette pause. On aura Jean-Louis Camus, qui est président de Destination Brenne, maire de Mézières-en-Brenne. On parlera avec lui de randonnée quelques minutes. Tout de suite après, Alain Souchon.
Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Le temps d'un jean et d'un film à la télé, on se retrouve à 28 balais, avec dans le cœur plus rien pour s'émouvoir, alors pourquoi pas s'asseoir. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Puis le temps qu'on est sur pilote automatique, qu'on fait pas nos paroles et pas notre musique, on a le vertige sur nos grandes jambes de bazar, alors pourquoi pas s'asseoir. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. J'appuie sur la gâchette accélérateur, y'a que des ennemis dans mon rétroviseur. Au-dessus de 180, je perds la mémoire, alors pourquoi pas s'asseoir. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. La nuit je dors debout dans un RER, dans téléphone, tu sais, j'entends la mer. Y a pas le soleil dans ma télé blanche et noire. Alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Lucile Parnaudot. Pour parler de Poitiers, j'espérais avoir un de nos téléphones, Jean-Louis Camus, donc maire de Mézières-en-Brenne. Il semblerait qu'on ait un petit souci pour l'instant pour l'avoir, ça ne devrait pas tarder, je l'espère en tout cas. L'antenne lui est ouverte, on parlait juste avant, Lucile, donc de transport. Vous êtes, on le disait tout à l'heure, un candidat à 2026 avec des chiffres. J'ai vu un sondage cette semaine, alors on va pouvoir en parler. C'est un sondage qui a été d'ailleurs, me semble-t-il, financé par une association dont est très proche monsieur Sacha Houdier. Donc un sondage qui est sorti aussi, ce qui vous crédite de 5 à 6%, je crois, hein, de voix, alors que Sacha Houdier est crédité de 29% et à peu près la même chose ou un peu plus peut-être pour Éléonore Monconduit. C'est pas un peu rageant quelque part de se dire qu'on est loin derrière et qu'il y a du boulot à faire, même si d'autres ont réussi à remonter la pente.
Non, au contraire, ce sondage m'a fait très plaisir parce qu'il a été mené fin juin, début juillet.
D'accord.
Et j'ai annoncé bien modestement ma candidature avec mes petits moyens personnels sur les réseaux sociaux le 2 juin. Mm-hmm. Donc déjà, j'étais agréablement surprise de voir que j'étais citée dans ce sondage.
C'est pas mal,
comme, oui. comme une éventualité. J'étais surprise parce qu'apparemment le prompt m'indiquait soutenu par Horizon Les Républicains, donc les deux partis droite centre droit à Poitiers. Aujourd'hui, je vois dans mon équipe des sensibilités même bien plus divergentes que ça. Donc c'était vraiment un tout début. Pour moi, c'est plus une base et au contraire. À l'époque, certains disaient mais qui est cette personne? On ne la connaît pas. Donc en étant personne, j'étais déjà à 7% avec une marge d'erreur entre 4 et 5%. Donc non, je suis plutôt c'est le tout début et c'était au contraire. Et puis en fait, je le fais pas pour une question de sondage. Je sais que le travail, il est à mener depuis cet été. Je me suis fait connaître, donc je pense que déjà si on le faisait aujourd'hui, ce serait différent. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois. C'est pas tellement la victoire en elle-même, c'est le lendemain. C'est commencer à travailler pour le territoire.
Exactement, les idées que vous allez porter, même si vous étiez quelque part, je ne vous souhaite pas, mais dans l'opposition, il y a quand même des choses à faire, même quand on reste en retrait.
Il y a toujours des choses à faire. J'ai assumé ce mandat d'opposition. Alors, je ne suis pas présidente d'un groupe d'opposition. Donc, mon rôle n'était pas d'être dans la presse et d'être visible. Mon rôle, c'était d'assister aux commissions, aux réunions de travail. J'ai travaillé sur certains sujets. Difficilement hein, pour certains, notamment l'aménagement des horaires, parce que je trouve que des conseils municipaux le soir, en présentiel exclusivement, c'est pas du tout inclusif. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'en parler oralement, par écrit, etc. Bon, je pense que ça dépend des équipes en place en majorité. Je crois qu'être élu d'opposition à Poitiers, c'est pas la même chose qu'être élu d'opposition à Béziers ou à Niort. Voilà, en témoignent certains élus d'opposition qui ont voulu m'en parler. Aujourd'hui, tout dépend qui gagne, mais honnêtement, je suis très confiante sur ce projet que je défends, avec plus de sécurité, avec plus de travail, d'attractivité économique et plus de liberté. Je sais que ce projet va gagner.
Exactement, puisque vous êtes une chef d'entreprise, on le disait par ailleurs. Ce qui est important, justement, de mettre un peu d'entreprise dans une administration comme celle de Poitiers. C'est vrai qu'on a l'impression, quelquefois, cette administration et puis d'autres aussi, hein, se sont éloignés un peu des habitants. Les entreprises ont été éloignées de Poitiers. Aujourd'hui, Poitiers, c'est un peu une ville dortoir. Les entreprises sont à l'extérieur. Votre but, c'est un peu de ramener un peu ces entreprises à l'intérieur?
Alors, les ramener, non. Je pense que celles qui sont à l'extérieur, si elles y sont bien.
Pour les usines,
soit,
bien sûr.
Voilà, dont acte. Mais je pense qu'il y a des choses, effectivement, d'initiatives privées qui sont plus ou moins volontairement maintenues à l'extérieur ou pas les bienvenues à Poitiers. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous souhaitons leur dire bienvenue. Oui, venez vous installer dans Poitiers.
Ça va être un peu compliqué par rapport au transport. Non pas les transports gratuits, mais par contre, par rapport au transport. Aujourd'hui, aller dans Poitiers, c'est assez compliqué. Moi, je sais que j'y vais une fois par an. pour Noël, et puis ça me suffit, hein, ça devient compliqué de circuler.
Ça me peine de vous entendre dire ça, justement. oui, j'espère qu'on pourra se donner rendez-vous dans 2-3 ans où ça aura changé. Il y a des choses à mettre en place. Déjà, l'urgence absolue, c'est le parking Notre-Dame.
Bien sûr.
Alors, il y a eu une fermeture d'abord pour raison de sécurité. Et puis, soudainement, on nous a dit que le moins un, il y avait moins de risques. Donc, ils ont mis des étais pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Certains parlent même de 2 millions pour consolider ce moins un. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on a consolidé le moins un et pas le moins deux, moins trois. Passons. Donc, effectivement, bizarrement, il n'est pas plein, ce parking. Mm-hmm. Enfin, non, mais c'est l'urgence absolue de refaire ce parking. Enfin, et sans dogmatisme, en fait, c'est là où un privé peut intervenir, typiquement. Et exactement. Un partenariat public-privé, c'est un gros mot pour certains. Pour moi, ça ne l'est pas. Il faut aller vers des partenariats public-privé. Il ne faut pas en avoir peur. Nous sommes, soyons lucides, nous sommes dans une époque où les collectivités publiques, y compris l'État français lui-même, sont exsangues. Il n'y a plus d'argent. Voilà. Il n'y a plus d'argent magique. On ne peut plus emprunter, plus à des taux comme avant. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, soit on ne fait pas, soit on fait avec le privé. Voilà, c'est tout simple.
La solution,
et même le privé, c'est compliqué. Donc, effectivement, attirer, pour revenir à votre question de base, attirer des entreprises privées à Poitiers, c'est vraiment le mot d'ordre. C'est de faire de l'attractivité et pour aussi que les habitants puissent travailler correctement et consommer aussi. Parce que, en fait, je pense que le modèle interventionniste très à gauche depuis 1977, il fonctionnait parce qu'on était dans une espèce de période glorieuse à Poitiers avec ce statut de capitale de région, des administrations fortes et puis quand même un ruissellement des entreprises alentours. Bon, ça se passait bien comme ça. Il y avait aussi la construction du chantier LGV qui a permis de faire venir beaucoup de familles, d'entreprises et tout l'écosystème économique qui va autour. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en plus, il y a le contexte national et international qui fait que c'est encore plus compliqué. Donc aujourd'hui, quand on est une collectivité, il faut remettre l'église au milieu du village et savoir qui fait quoi. La collectivité, son rôle pour moi, c'est de venir encourager les initiatives privées, pas de faire à la place d'eux. Mmh. Donc pas construire, par exemple, ce chantier de la caserne des pompiers d'économie sociale et solidaire. Encore une fois, c'est de l'idéologie politique. Pour moi, l'économie, elle est déjà sociale et solidaire. Dans le fait, il n'y a pas besoin de rajouter sociale et solidaire à économie. En fait, l'économie antisociale et antisolidaire, ça n'existe pas. L'économie ne fonctionne que si tout le monde va bien, tout le monde a envie de consommer, tout le monde est heureux. Donc, de fait, économie tout court. Mais l'économie, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut laisser faire les agents économiques librement, leur laisser plus de liberté, leur dire oui quand ils veulent s'installer et pas non. Déjà, leur répondre, parce que beaucoup n'ont pas de réponse. Et ensuite, quand ils ont une réponse, elle est négative. Donc, l'idée, c'est de leur dire oui. Et ensuite, c'est pareil, il peut y avoir des propositions de subventions à des entreprises pour qu'elles s'installent. Je ne suis pas forcément favorable. Je pense qu'une entreprise qui fonctionne, ce dont elle a besoin, c'est de visibilité. Donc, si on dit, par exemple, un gel fiscal, donc pendant X années, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition sur la cotisation foncière des entreprises, sur le versement mobilité, des choses comme ça. Mais après, les entreprises, elles font leur business plan et elles s'installent. Voilà, c'est tout simple. Mais l'idée, c'est de leur montrer de la visibilité. Comme ça, quand elles font leur plan d'affaires et qu'elles le présentent à la banque, c'est carré, elles savent qu'elles vont être rentables, elles vont pouvoir s'installer. Et ensuite, il faut pouvoir les accueillir, donc répondre au téléphone, répondre aux demandes, accorder les permis, etc.
Les entreprises, ce sont aussi des commerçants pour certains, qui ont quitté, enfin beaucoup en tout cas ont quitté le centre-ville. L'idée, c'est de les ramener un peu. Alors, je connais pas l'état du commerce actuellement dans Grand Poitiers. Moi, quand j'y passe une fois par an, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de commerces de fermés. L'idée, c'est de redévelopper un peu, de ramener les gens vers le centre.
Oui, c'est le même principe. Je pense que les commerçants, ils savent mieux faire leur travail qu'une collectivité. C'est pas à la collectivité de leur dire comment travailler. Toutefois, c'est à la collectivité de rendre le centre-ville attractif. Donc, faire une animation, des biennales, des gros événements culturels avec des parkings relais efficaces, qui sont propres, des parkings souterrains qui sont accueillants, qui sont sécurisés, qui sont éclairés.
On a quelques-uns comme sur Poitiers, hein,
que
ce soit Rivaux, que ce soit Carnot, qui est un peu plus compliqué. D'ailleurs, je ne sais même pas aujourd'hui comment on fait pour joindre Carnot, hein, vu le
centre de la Tranchée.
La rue de la Tranchée uniquement.
Prenez le boulevard sous Blossac, rue de la Tranchée, et vous arrivez parking Carnot. Le parking Blossac-Rivaux, anciennement Rivaux, c'est un vrai sujet parce que... Moi, c'était mon parking quand je suis arrivée à Poitiers il y a 12 ans. Je le prenais tout le temps. Je m'installais toujours dedans parce qu'il y a toujours de la place. Il est très agréable. Et puis, en fait, on est aussi vite au centre-ville, au cœur de l'hôtel de ville, que la plupart des autres. Il est très proche.
D'accord.
Toutefois, le parcours chaland, donc vraiment le chemin que l'on emprunte du parking Rivaux ou Blossac pour aller au centre-ville, et pas très commerçant.
Non, donc, bah, tout à fait.
Donc, il y a vraiment un enjeu. Mais on est en train de travailler avec des partenaires, donc soit des commerçants, soit des associations sur les arts visuels, sur une stratégie d'urbanisme, en fait, pour animer ce quartier-là, qui est juste à côté de Blossac, où il y a un kiosque qui est superbe, d'ailleurs.
Tout à fait, bien sûr. Ouais.
Voilà, il y a quelque chose vraiment à faire autour de ce parking, pour que peut-être il devienne le parking du centre-ville, en tout cas un des parkings qui est souvent oublié, malheureusement.
Oui, c'est ça, c'est pour nous le plus éloigné, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est le moins attractif.
Pas forcément. Voilà. Si on regarde géographiquement, non, pas forcément.
On dirait qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement le choix, hein, puisque avec, donc on parlait de parking Charles de Gaulle, hein, qui est dans un état voilà, qui laisse plus qu'à désirer, donc c'est forcément Rivaux ou Carnot, pourquoi pas. On parlait à une époque, alors je ne sais pas si ça a de l'avenir, hein, d'un téléphérique qui aurait pu faire les couronneries jusqu'au centre-ville. C'est quelque chose qui pourrait se faire, un transport comme ça qui permettrait...
Ça fait partie des propositions qu'on étudie, mais j'attends d'affiner le chiffrage. Parce que là, c'est toujours pareil. Il y a des très belles choses à faire. Il y a aussi des idées un peu plus loufoques de modes de transport comme ça, doux, mais réservés à des personnes valides déjà. Donc c'est anecdotique, mais ça ne permettrait pas de diminuer des flux de voitures non plus très conséquents. Donc c'est plus une attraction touristique. Mais oui, ça fait partie des possibilités. Après, je reste quand même, j'essaye de garder ce discours de vérité, de dire que les situations des finances publiques à la ville de Poitiers comme à Grand Poitiers sont arrivées au bout du système, pour citer le rapporteur Claude Edelstein, qui veut tout dire. Je ne promettrai pas des grands équipements coûteux à plusieurs millions d'euros, puisque je pense que ce serait un manque de lucidité, en fait. Donc je pense que d'abord, il y a un mandat d'audit, de revue et de maintenance et de rénovation de ce qui existe déjà, parce qu'on a aussi un patrimoine, et j'y reviens, patrimoine historique. Il y a eu des choses de fait, hein, y compris grâce à la Fondation du patrimoine et la Mutuelle de Poitiers Assurance. Et ça, encore une fois, un partenariat public-privé, ça n'est pas interdit. Ça nous permet de mettre en valeur notre patrimoine. C'est excellent. Y a d'autres choses à faire, notamment sur les équipements sportifs. Les équipements en général et les actifs immobiliers de Poitiers, Grand Poitiers sont dans un état de vieillissement important. Donc, on peut envisager des nouvelles choses, des mises en place de nouveaux projets, mais pour nous, la priorité aujourd'hui, c'est d'abord de faire un état des lieux de ce qui existe et de venir mettre de la maintenance et rénover des choses qui existent déjà et pour lesquelles c'est un vrai sujet d'intérêt général que de rénover tout de suite.
Écoutez, je vous propose une deuxième pause musicale. Je suis désolé, on n'aura certainement pas Jean-Louis Camus pour parler un peu de sa randonnée dans la Brenne qui se déroulera le 19 octobre. On en reparlera dans les jours qui viennent. Et puis surtout, vous pourrez les consulter sur le site de nos amis de Rando 86. On va se faire une petite pause musicale, tiens, avec une chanson toute particulière, puisque je recevrai dans 15 jours nos amis du Téléthon, hein, qu'il s'agisse de Marine Moulin, qui est déléguée départementale, de Madame le maire de Chevigny, hein, qui viendra, Nelly Gardaflip, qui viendra ici en studio avec Michel Daou, qui est son adjoint au sport. On va se passer une petite pause musicale avec des enfants autistes, une chanson belge. Alors, c'est rien d'étonnant, vous me direz, de ce côté-là. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé très belge. Je l'ai découvert, en fait, ce matin à 5h du mat en préparant cette émission. C'est une chanson qui s'appelle La différence, quelle drôle de danse. Et on revient tout de suite après.
On a nos manies, nos têtes envahies, gestes maladroits. En mode pourquoi, nos regards s'égarent, on a parfois peur, et notre langage, pas toujours à l'heure. Le repli des cris sont notre défense, c'est notre détresse qu'on vous balance. Quand notre cœur déborde de joie, on flappe les bras, on fait n'importe quoi. On voudrait comprendre toutes nos émotions, le monde va trop vite.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Lucille Parnaudot pour parler de Poitiers, Poitiers 2026. J'ai voulu passer cette chanson pour une raison particulière, c'est que lorsque Léonore Moncondoui est arrivée à Poitiers, son premier acte a été d'enlever les subventions pour les enfants qui voulaient faire un peu dans les aéroclubs. On a le discours, on a les paroles d'un côté avec les dents bien blanches et puis de l'autre côté il y a les actes. Quelquefois ils sont contradictoires, hein. Peut-être l'arrivée aux affaires à ce moment-là peut-elle changer les choses. Votre position à ce moment-là, ça a été quoi? Ça a été un peu...
Non, évidemment, j'ai trouvé que c'était pas acceptable, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Il n'y a pas de secret, hein. Je suis restée dans l'opposition et fière de l'être. Non, effectivement, certains ont dit « c'est bon, on dépassait sa parole ». Non, elle a fait des explications plus politiquement correctes ensuite, mais elle reste... fidèle à son discours de dire que l'avion ne doit plus faire partie des rêves d'enfants, tout en le prenant au quotidien et en ne le supprimant pas non plus de la politique du fonctionnement de la collectivité. Donc c'est doublement surprenant. Moi, je dirais l'inverse, en fait. À la limite, rêvons d'avion et ne le prenons qu'un minimum. À la limite, ça, pourquoi pas? Mais non, c'est justement les rêveries, les rêves. C'est justement dans tout l'inverse que je m'inscris. Et évidemment qu'il faut rêver d'avion, évidemment qu'on doit En fait, l'avion, c'est quoi? C'est un mode de transport pour aller loin, plus vite. J'ai étudié les relations internationales quand j'étais à Paris. C'était un sujet souvent houleux, ces congrès là, de Davos, les congrès internationaux de diplomatie. Alors, qui plus est, quand il s'agit d'écologie, c'est choquant de se dire qu'on a des milliers de personnes qui se déplacent en avion du monde entier pour se réunir à un seul endroit pour parler d'écologie. Ça fait toujours grincer des dents, il y a toujours des bilans carbone qui sont émis à cette occasion-là. Et c'est vrai que je faisais partie des étudiants choqués à dire bah « non, on peut faire des visios, on peut faire autre chose », etc. Quand je vois qu'en plus à Poitiers, ils ne le font même pas et qu'ils obligent à faire du présentiel, bon, ça m'amuse vraiment, ces questions-là. Je trouve qu'on voit l'incohérence dans toute sa splendeur. Mais l'avion, ça permet quand même des échanges entre des humains que nous sommes. Nous vivons sur une planète. Donc oui, une planète, c'est grand. Donc prendre l'avion, y compris pour nos diplomates, c'est important. Parce que sinon, quand on ne le fait pas, quand on ne se mélange pas, quand on reste dans l'entre-soi, comme certains veulent, à Poitiers comme ailleurs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On s'oppose. Mmh. Et quand on rencontre l'autre, on se fait la guerre. Et la guerre, ça pollue. Donc je préfère une pollution régulière, contrôlée, minimes d'avion, de diplomatie, de paix, d'échange, de cours de langue, de coopération économique. Oui, il y a plein de défauts, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses à corriger. C'est là où les pouvoirs publics devraient être exemplaires et où on a tous les jours des exemples de mauvaise gestion. Ok, c'est vrai, mais je lutterai quand même toujours du côté de la paix et des échanges avec les autres. Parce que, voilà, encore une fois, ça peut paraître idéaliste, mais c'est tout à fait ça. En fait, une guerre pollue bien plus. Certains voudraient, hein. Il y en a, vous savez, cette phrase très choquante, il faudrait une bonne guerre et puis il y aurait moins d'humains sur Terre, on aurait moins de problèmes. Mais c'est exactement ça, c'est le paroxysme de cette politique de décroissance, de vouloir, en fait, éteindre les échanges, la vie, le progrès. Alors, moi, je suis pour le progrès, je suis pour les richesses, je suis pour les échanges. Vraiment. Donc au contraire, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, jeunes hommes, les enfants, rêvez d'avion, rêvez de voyage, rêvez de parler 1000 langues. Au contraire, mélangez-vous, brassez-vous, confrontez-vous, disputez-vous et apprenez à le faire avec votre culture, avec celle des autres. Et c'est comme ça que vous pourrez débattre de manière apaisée. Et voilà, et qu'on pourra tous vivre ensemble en paix. C'est ça mon idéal. Pour moi, il est là.
Exactement. Vous savez ce qu'on va faire ? On va essayer de joindre quand même Jean-Louis Camus, parce que j'ai vu qu'il avait essayé de m'envoyer un SMS. Alors je le dis tout de suite, on risque de tomber directement avec lui sur son portable. On laisse sonner, on se croirait chez Julien Courbet. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Bah, s'il rappelle, je le prendrai automatiquement à l'antenne, il n'y a pas de souci. On parlait donc des enfants hein, qui le rêve d'enfant. Votre programme, on va revenir justement sur cette jeunesse. Votre programme a trois mots. Hein. J'ai vu le côté attractif que vous cherchiez au niveau de Poitiers, le côté sûr, la sécurité, c'est important, et un côté libre. Je n'ai pas forcément compris l'aspect liberté.
C'est celui dont je viens de vous parler. C'est une philosophie. Ça recoupe concrètement deux pans du programme, même si c'est vraiment une philosophie de laisser faire, de laisser respirer cette ville qui, je trouve, étouffe sous les interdictions, la morale, les interdictions de rêver. Donc ça, c'est la grande philosophie. Mais les déclinaisons concrètes, c'est en termes de culture, de laisser faire et de laisser proposer les acteurs en local, qui ont beaucoup d'idées de faire des choses culturelles, artistiques, et de les laisser plus s'exprimer. Laisser aussi les artisans qui veulent travailler, notamment à Poitiers. Il y a quand même beaucoup d'enjeux d'artisans qui ne se sentent pas autorisés à travailler, pour plein de raisons, d'autorisations administratives qui ne sont pas données ou de manière très tardive.
Compliqué. Et puis aller dans les rues avec aujourd'hui un véhicule, ça c'est compliqué.
Exactement. Et puis il y a aussi cette gratuité des bus pour que tout un chacun se sente libre de circuler. Ouais.
Au niveau donc de la liberté, au niveau de la sécurité, des choses à faire certainement. Alors on l'a vu dans l'actualité il y a quelques mois, donc avec ce qui se passait du côté notamment des couronneries. Alors j'avoue, j'ai pas suivi ensuite ce qui se passait, mais c'est vrai que la sécurité, on a l'impression qu'il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui.
Quand j'ai été élue en 2020 dans l'opposition, j'ai pris le temps de discuter avec l'ensemble des personnes qui me sollicitaient sur les réseaux ou dans la rue. Et j'ai rencontré des dizaines de citoyens tout au long de ces 5 années de mandat. Et 100% du temps, c'était pour parler de sécurité. C'est vraiment la préoccupation des habitants de Poitiers aujourd'hui. Et c'est en discutant et en me renseignant aussi que j'ai réalisé les erreurs passées aussi des élus en place précédemment. Je pense qu'ils ont sous-estimé les problèmes de sécurité. Quand il y avait eu des émeutes en 2009, moi j'y étais pas, mais beaucoup de personnes sont restées traumatisées par ces 250 casseurs qui sont venus terroriser les habitants de Poitiers. Et ensuite, les réponses, je pense, n'ont pas été à la hauteur. Certaines villes en France ont fait des choix politiques très critiqués à l'époque de déployer ce qu'on appelait des arsenals de sécurité, de vidéosurveillance, des centres de surveillance urbains, que tout le monde prône aujourd'hui à Poitiers. C'est un peu tard.
On a des caméras à Poitiers, justement.
On en a de la vidéoprotection qui filme, qui enregistre qu'un certain temps. Mais là, c'est pareil. Il y a des comités de la surveillance à mettre en œuvre. Il y a des liens à renforcer avec la police nationale, avec les services de la préfecture, avec les acteurs du monde de la nuit, avec les associations. Aujourd'hui, c'est fait à minima. Il faut, pour moi, il faut vraiment mettre beaucoup plus d'accent et d'action sur les enjeux de sécurité.
C'est ça, le risque de ne rien faire pour la sécurité, hein, c'est de provoquer les extrêmes. Hein, notamment, j'ai parlé des candidats qui seront présents pour les élections. Je n'ai pas parlé de Dolores Prost, qui sera donc la candidate ciotiste et Front National, enfin Rassemblement National. Ce que je disais, ça vous laisse une large plage sur la partie droite et la partie centre. C'est vrai que le risque, c'est ça, c'est de fermer les yeux comme on a pu le faire depuis des années. C'est peut-être justement de développer cette insécurité, quoi.
Oui, après, honnêtement, il y a aussi des personnes à gauche qui soutiennent ma candidature parce que, peut-être aussi parce que je ne viens pas du monde politique, les réponses que je souhaite apporter sont en partie, répondent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des personnes qui sont militantes et à droite, au centre droit. Mais il y a aussi une réponse de prévention et d'accompagnement du jeune délinquant ou de la personne qui va générer des incivilités par le biais du travail. Je dis parfois, pour être un peu provocatrice, je ne vais pas leur offrir des vacances. Par contre, je voudrais faire en sorte que la collectivité leur donne les moyens de travailler, et espérons leurs vacances. Et en fait, c'est tout le... C'est, je pense que c'est là où, en termes de philosophie sur la sécurité, on va s'opposer avec les autres candidats déclarés, c'est qu'il y a un côté accompagnement, soutien des personnes dans les quartiers. Moi, je n'oppose pas les quartiers au reste. Hein. C'est pour ça aussi que je veux des transports gratuits. Pour moi, Poitiers, c'est Poitiers. Donc, quand on habite Poitiers, on habite Poitiers, point. Et on a besoin de trouver du travail, on en trouve, qu'on soit au centre, à la Mérigotte, aux Trois Cités, à la ZUP. Voilà, l'enjeu, c'est de pouvoir travailler dignement pour pouvoir se payer nos vacances à nous et pas attendre qu'elles viennent de la collectivité qui va nous les offrir.
Exactement. Vous parliez sur l'aile gauche, justement, de vos soutiens actuellement. La différence par rapport, justement, au soutien que peut avoir un Alain Claës, un 77 ans, ou un comment s'appelle déjà notre ami Sacha Houlier, le néo-socialiste. La différence avec ces gens-là, c'est quoi aujourd'hui sur la partie gauche de votre programme ?
Quand j'ai accepté de travailler auprès d'Alain Claës en 2020, c'était sur des sujets d'attractivité économique. Hein. Déjà, il y avait ce sujet-là. Donc là-dessus, on pourrait se rejoindre, bien que moi, quand je parle d'attirer des entreprises, notamment par des politiques d'exonération fiscale, par exemple parce qu'on s'installe dans tel quartier, pour le coup, parce qu'il y a des quartiers qui sont vraiment déficients en termes d'entreprises privées. Donc, c'est pas une promesse, mais c'est un sujet qu'on étudie. C'est-à-dire que si financièrement on peut le faire, pourquoi pas ? Enfin, on va pas être opposé de manière dogmatique. Après, j'ai pas eu l'occasion de voir des éléments de programme de leur côté. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il n'y aurait pas tant une politique d'encouragement vers l'initiative privée. Et donc, je suis plus libérale économiquement qu'à ce que j'ai compris de leur philosophie. Mais aujourd'hui, je ne vois pas de toute façon de projet se dessiner. Peut-être que je me trompe, mais je n'en ai pas vu.
Et ça va peut-être venir un moment ou un autre. Mais, on aurait bien parlé un moment ou un autre de projet dans cette campagne.
Mais après, pour poursuivre un peu, finalement, parce que vous me parlez des soutiens, les personnes qui m'accompagnent sont d'ailleurs majoritairement sans carte, hein, et sans a priori politique. Et les personnes qui me soutiennent, c'est parce qu'elles m'ont vu travailler, ou elles me voient parler avec sincérité, elles ont vu certaines choses que j'ai pu accomplir à mon échelle, et on voit que c'est sur la méthode. Et dans les discours, c'est ce que je dis souvent, les hommes et les femmes politiques, ils disent tous la même chose, on veut tous la paix, on veut tous le développement économique, on veut tous...
Un peu comme nos Miss France. Hein.
Mais voilà, exactement. voilà, très bien, c'est vous qui avez comparé, hein, c'est pas moi, si vous le dites. Mais c'est sur la méthode, c'est sur la manière d'y arriver.
C'est voilà. Ça, tout à fait.
Ouais. Donc... oui, typiquement, une entreprise qui veut s'installer, on lui répond. Voilà. Et moi, par exemple, je m'engageais sur un guichet unique avec des systèmes de tickets où quand il y a une entreprise qui fait une demande, on suit sa demande, ouais, par exemple. Donc, oui, ça peut paraître parfaitement technique et anecdotique, mais ça fait partie des toutes premières mesures, ce guichet unique. Donc, on peut parler avec des grands mots à quatre syllabes, mais l'enjeu, c'est comment ensuite on met en œuvre la politique derrière.
Oui, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on a une ville qui est jeune, en fait, hein, quand on regarde Poitiers. C'est 50% de moins de 30 ans, en fait, hein, ce qui est énorme, hein, sur une ville qui fait 90 000 habitants, à peu près, à Poitiers, je pense.
Oui.
Et donc, énormément de possibilités au niveau de création d'entreprise, d'attirer les investisseurs. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'une belle endormie, hein, tout simplement. On a des beaux discours par devant, et puis cette ville s'endort tranquillement. Elle a un beau patrimoine, ça, on ne peut pas dire le contraire, avec ses églises, ses musées, mais à côté de ça, il manque pas mal de choses pour la faire vivre.
En fait, je me suis trompée, je crois. Quand en 2020, on avait milité pour une ville à taille humaine, aujourd'hui, j'ai changé d'avis. c'est pas une ville à taille humaine que je projette pour donc Poitiers et Grand Poitiers, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi ça fait partie d'un tout. Et je pense que justement en s'alliant avec des villes comme Chauvigny, d'ailleurs je salue au passage l'élection de la nouvelle maire, Madame Gardaflip, c'est historique, donc j'en profite pour la saluer, la féliciter, parce que c'est vrai que c'est
assez... était la première adjointe de Gérard Herbert, qui a dû démissionner pour raison médicale, mais de toute façon je crois qu'il n'avait pas prévu non plus d'aller beaucoup plus loin. Il parlait justement à l'époque d'un mandat de trop, peut-être, il ne voulait pas faire le mandat de trop, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'Alain Claës et d'autres liens par rapport à lui. On aurait pu penser à l'époque que vous auriez été celle qui aurait été sa seconde, sa première adjointe, et puis le suivre. C'était dans les possibilités, ça, de vous voir à l'époque?
Non, je crois pas. Pas à ma connaissance. Mais en tout cas, pour revenir à ça, si on pense Poitiers à l'échelle du territoire de Grand Poitiers aujourd'hui, ce que ça représente, y compris nos liens avec Châtellerault et le Futuroscope, que j'appelle de mes voeux ouvertement à chaque fois que j'en ai l'occasion, comme maintenant, l'idée, c'est pas de se voir comme un territoire de taille moyenne. Non, l'idée, c'est de se dire que demain, dans 20, 30 ans, il y a des étudiants de la France entière qui se diront « Oh, j'ai été pris à Poitiers, génial !» Vous voyez, ce que je voudrais, c'est que cette ville d'art, d'histoire, de savoir, on rayonne par ça. En fait, c'est justement ce que vous avez dit, cette jeunesse, c'est la richesse de notre territoire tout entier. Et justement parce qu'on a ce patrimoine historique, on a cette force historique, on était capitale d'Europe, on a été une des plus vieilles universités d'Europe à Poitiers, on a eu Aliénor d'Aquitaine qui a construit son palais, qui se rénove et tout ça. Ben ça, justement, chère jeunesse, venez faire grouiller les idées, les initiatives, et venez créer avec nous, et que Poitiers devienne le centre névralgique de savoir de France. Ouais. Pense que c'est, pour moi, c'est ça que je visionne, que j'ambitionne pour ce territoire. C'est vraiment, je suis sûre que Poitiers a toutes les armes pour le faire, mais pour ça, il faut se lever et il faut se décider d'être fier de notre territoire et de le faire rayonner, de l'accepter, ça.
Exactement. C'est vrai qu'on a 20 000 étudiants sur Poitiers, dans l'université. On aurait pu penser à l'époque, quand l'énorme Mont-Condoux est arrivé, elle était soutenue par cette jeunesse en partie. On peut espérer aujourd'hui justement que quelqu'un puisse obtenir ce soutien de la jeunesse. Tout le monde peut vous le souhaiter. Vous êtes jeune. Je ne vous ai pas demandé, je vais être un peu mal poli, mais vous avez la trentaine.
J'ai 36 ans.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que vous avez une certaine ambition. Vous avez un discours qui est différent par rapport à nos politiques habituelles. Donc on peut peut-être espérer, justement, moi je le dis parce que j'ai un fils qui a 15 ans et qui sera amené, j'espère, à aller sur Poitiers pour étudier. On parlait tout à l'heure du lien justement entre Poitiers et Grand Châtellerault que vous vouliez établir. Il y en a un actuellement qui aurait pu s'établir, c'est le département qui le porte. J'en parle souvent, c'est le triangle d'or du Poitou qui est ici entre Chauvigny, Angle-sur-Anglin, Saint-Savin.
Oui.
Chauvigny, c'est forcément la cité médiévale. Angle-sur-Anglin, c'est le roc aux sorciers et la forteresse. Saint-Savin, c'est l'abbaye classée au patrimoine mondial. Et c'est vrai que là, on a un beau laboratoire puisqu'on a les trois communautés de communes, Grand Poitiers, Grand Châtellerault et Montmorillon qui sont liés, plus Grand Châtellerault et Montmorillon que Grand Poitiers, puisqu'on a l'impression qu'il y a une certaine réticence de Poitiers de venir sur le secteur. À ce niveau-là, vous pourriez aider au développement de ce triangle d'or?
C'est justement tout l'enjeu. Effectivement, j'ai oublié Angle sur l'Anglin, vous avez raison. Avec Saint-Savin et Chauvigny, je cite souvent Angle sur Anglin aussi, bien sûr. Oui, c'est tout l'enjeu de se dire aujourd'hui, c'est plus l'argent public qui va révolutionner et conditionner nos dynamiques et nos politiques de développement territorial. En revanche, nous mettre ensemble, faire une communication commune sur... on dit souvent la ville aux 100 clochers, mais en fait, c'est le département aux 1000 clochers.
Oui, tout à fait.
Voilà, je veux dire, quand les Espagnols, parce qu'on a beaucoup d'Espagnols qui viennent visiter, hein, je crois, d'après certaines études, c'est la première communauté étrangère qui vient dans le Poitou pour visiter, c'est ça ?
Oui.
Eux, quand ils viennent, je pense qu'ils ne se limitent pas à choisir les villes. Eux, ils voient que c'est le Poitou avec cette histoire, et donc ils veulent apprendre des choses, et donc ils veulent s'enrichir. Et donc, je pense que c'est toujours pareil, dans cette optique d'attirer dans le monde entier, parlons d'une même voix sur ce territoire du Poitou. Alors, il y a des labels, il y a des initiatives qui existent. Moi, je m'inscris pleinement dans cette coopération avec Grand Châtellerault, avec ce Triangle d'Or, avec tout le département, et avec le département aussi comme collectivité, pour qu'on parle d'une même voix, au moins à l'extérieur. Qu'à l'intérieur, après, on fasse notre...
Il y a des débats, c'est logique.
Voilà, exactement. Et c'est sain, et c'est très sain. Exactement. Mais à l'extérieur, j'aspire à ce que le Poitou et sa marque, je vous dis encore une fois, sa fierté, parce que c'est comme ça qu'on va attirer. Et que les gens auront envie de rester. Et quand ils partiront, parce que c'est très sain aussi de partir d'un territoire et d'en revenir, ça, je ne suis pas forcément pour capter à tout prix et garder chez nous.
Non,
je pense que c'est très sain de partir, de revenir. Mais quand on part, qu'on soit fier. L'idée, c'est que tout le monde soit un peu ambassadeur du territoire.
Tout à fait, qu'on soit fier quand on est jeune aussi, hein, puisqu'on disait, il y a beaucoup de jeunes. Votre action par rapport à cette jeunesse, alors pas forcément les étudiants, mais les plus jeunes, hein, les adolescents, dans votre programme, c'est...
Il y a plusieurs enjeux avec les adolescents. Donc la culture fait partie, on en a déjà un petit peu parlé tous les deux à l'instant. Il y a aussi le sport, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Tout mais le fait. Sport, c'est dans la même philosophie, c'est de l'ouvrir à un maximum de personnes. Et notamment chez les adolescents, où c'est un enjeu de santé publique majeur. Et où là, je pense que les collectivités ont un rôle clé à jouer. Les cardiologues nous alertent dès qu'ils le peuvent sur cet enjeu de santé publique de bouger, hein, de manger bien, certes. Ça, je pense que ça fait plusieurs années que les différents lobbies ont fait le travail dans le bon sens du terme. Mais sur l'activité physique, je crois que ce n'est pas encore rentré totalement dans les mœurs de tout le monde. Et donc, on travaille sur plusieurs possibilités pour faire en sorte que le sport devienne une routine quotidienne et que Poitiers encourage ça. Donc, en ouvrant des créneaux, des équipements, j'ai parlé de la rénovation de certains équipements, mais il y a aussi l'enjeu de les rendre accessibles. La gratuité des bus, c'est aussi pour eux. C'est aussi pour ces adolescents qui ne sont pas électeurs, hein, donc ce n'est pas électoraliste comme mesure, mais qui souvent ont un enjeu pour venir se rendre sur le lieu où ils peuvent venir faire du sport le mercredi après-midi ou le samedi, et où il y a des vrais débats à la maison. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui vont se reconnaître là-dedans. Ah oui, mais si je t'accompagne à la piscine, moi, qu'est-ce que je fais pendant une heure et demie
C'est un peu voilà. Ça, tout à fait.
Bah, oui. Voilà. Donc, il peut y avoir des compromis en disant je t'emmène, tu reviens en bus, etc.
Exactement. Bon, voilà. Faites comme moi. Mon fils est parti au badminton ce matin à Chauvigny pendant que je suis à la radio, et je le récupère juste après. Ça peut être un compromis aussi. Quoi.
Exactement.
Faites de la radio.
Voilà.
J'étais cette semaine à Saint-Savin, au collège, hein, pour un conseil de discipline avec un enfant. Donc, il laissait un peu, on va dire, sans aller trop loin, mais à l'abandon le soir et puis le week-end. Et on lui a conseillé justement le sport. On a conseillé à ses parents de l'inscrire dans du sport. C'est quelque chose qui est important, c'est justement pour la sécurité, entre guillemets, mais au moins pour éviter la délinquance.
Oui, exactement. En fait, sans les trahir, il y a certains... Dans la délinquance, on va être un peu franc, il y en a, ils iront toujours. Voilà.
Oui,
même si on leur offre tout sur un plateau, c'est comme ça. Il y a des personnes, des personnalités qui vont choisir d'aller vivre dangereusement. Bon, on ne pourra rien faire. Il y a une partie structurelle de la société, c'est comme ça. Mais il y en a beaucoup qui sont dans l'hésitation. Parce que quand on grandit, qu'on est adolescent, qu'on est jeune adulte, on est sans arrêt soumis à des pressions, donc on hésite. Voilà, on hésite. Est-ce que je vais faire du sport, je vais trouver un travail légitime, ou est-ce que je vais me faire de l'argent facile, je vais rentrer dans le trafic. Il y en a qui hésitent. Et là, ce n'est pas une question de chiffres. Si on peut en sauver 1, 2, 3, 5, 10, c'est déjà mission accomplie. Et quand on parle avec ceux qui s'en sont sortis, il y a plusieurs leviers. Il y a le travail, mais il y a aussi... un côté glorieux, et faire du sport, ça renforce. Un jeune qui va faire de la muscu, qui va être beau physiquement, qui va se sentir fort dans la rue, qui va pouvoir être valorisé en gagnant des prix, en gagnant des combats de lutte, de boxe, c'est une sacrée valorisation. Donc au contraire, allons vers ça, en fait. Valorisons ce qui est valorisable. Et le sport, c'est vraiment un moyen glorieux et constructif, je pense, pour beaucoup de jeunes qui, du coup, auront peut-être un autre moteur pour se lever, une autre raison de se lever que simplement de l'argent facile. Quoi.
Exactement. Votre raison, vous levez maintenant, c'est les prochaines élections, hein, c'est 2026, donc mars 2026. Il nous reste un peu moins de 40 secondes en fait, d'émission. Vous voyez, ça passe relativement vite, une heure d'émission. Alors, votre souhait, c'est forcément, je ne vais pas vous demander votre souhait pour 2026, mais votre ambition, véritablement, pour Poitiers, c'est quoi ? Ce serait...
Qu'elle rayonne, qu'elle redevienne... une terre où tout est possible.
Eh bien, écoutez, je vous remercie, on va se quitter sur ce mot de la fin. Et puis je vous dis peut-être à bientôt, hein, sur nos ondes, sur REC 103.7. Merci.
Avec joie, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre, ici ou là, était-ce un lundi, je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était-ce mai, novembre, ici ou là, était-ce un lundi, je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était-ce mai, novembre, ici ou là, était-ce un lundi, je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, nous l'avons franchi. Là, Ajoute à ma vie, j'ai besoin de nos chemins qui se croisent. Quand le temps nous rassemble ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi de tes voyages si loin. Reviens-moi, tout ça. Ensemble, nous l'avons franchi.
Souviens-toi,
nous l'avons franchi.
Souviens-toi,
nous l'avons franchi.
Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.